Arnaud, on a bien préparé l'environnement pour utiliser Azure Threat Recovery afin de protéger des serveurs physiques. Juste pour rappel, donc, on a créé dans Azure le Configuration Server, on a créé dans Azure le Target Server et on a créé dans le Data Center un rôle qui s'appelle le Process Server. Désormais, on va voir comment mettre en œuvre la protection des serveurs physiques qui sont exécutés dans le Data Center afin qu'ils soient répliqués dans Azure.
Et bien, ça se passe dans la console Azure Site Recovery. On retourne sur cette page web et puis on voit qu'effectivement, ici, on peut passer l'étape 3 vu qu'on n'a que des serveurs physiques. On va créer les groupes de protection et ensuite, on ajoutera des machines dans ces groupes de protection. Donc, effectivement, quand je crée un groupe de protection, c'est quoi? C'est une enveloppe de protection des machines qui va, en gros, couvrir un ensemble de paramètres communs, un ensemble de machines qui vont être protégées sous les mêmes critères.
D'accord. C'est en gros, tu mets dans tous les serveurs physiques que tu veux synchroniser avec les mêmes paramètres.
Absolument. Donc, je clique Create Protection Group. À partir de là, il me dit qu'est-ce que tu veux créer. Je donne un petit nom, Protection Data Center Hyperspeed, c'est le nom de notre environnement. On va prendre ça depuis le CS que j'ai créé tout à l'heure, BRHSFI CS1.
CS, ton Configuration Server.
Toujours le même.
Voilà.
Et puis ici, la Target, donc Microsoft Azure, c'est spécifié automatiquement. Ensuite, écran intéressant, il nous demande ici les paramètres de réplication qu'on veut utiliser. Le premier, c'est la multi-VM consistency. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais restaurer une VM, je vais prendre tous les autres VM au même état, avec le même snapshot. C'est-à-dire que je vais m'assurer que ce que je restaure, c'est toutes les VM en même temps, prises au même moment, au même snapshot.
D'accord. Donc là, tu dis VM, mais en fait, ça correspond du coup à l'environnement physique, c'est prendre de restaurer sous la forme de VM X serveurs physiques au même instant.
Voilà.
Pour assurer cette fameuse cohérence.
Absolument. C'est pour pas dire que tel autre serveur, il a plus de données, du coup le RPO c'est pas le même. Du coup, je vais avoir un serveur qui est plus récent pour tel cas et tel autre. Donc là on se dit non, tu m'assures que tout soit cohérent.
Et c'est tout l'intérêt des groupes en fait, c'est qu'on a une chaîne applicative avec plusieurs composants, que tous les composants soient protégés de la même façon et restaurés de la même façon, tous sur une même base.
Absolument. Le RPO threshold, c'est l'objectif que j'ai pour le RPO. Le RPO étant, on le rappelle,
la quantité de données qu'on peut perdre admissible, hein, c'est-à-dire la fenêtre de tir entre la dernière sauvegarde ou la dernière réplication, et puis l'incident.
Absolument. Donc là, un œil averti,
qui en vaut deux,
aura remarqué qu'on est dans un cas qui est un petit peu différent des autres configurations de Azure Site Recovery. Si vous avez suivi les autres cours, on voit que par exemple pour Hyper-V, pour des machines qui sont répliquées par Hyper-V, on a un choix qui est entre 3 valeurs, 30 secondes, 5 minutes ou 15 minutes. Et bien avec cette configuration, on a ici par contre une réglette. Cette réglette, elle va aller entre 1 et je crois que c'est 70 minutes de mémoire, mais je me trompe peut-être. Et on a comme ça la réglette qui va nous permettre de choisir l'intervalle qu'on veut, l'objectif qu'on veut.
Voilà. Le choix est quand même assez important parce qu'en fait, plus vous allez descendre votre RPO, qu'est-ce que je disais tout départ dans le premier module, le deuxième module de ce cours, c'est que plus le RPO est faible, plus ça peut coûter cher. Simplement parce que si vous dites « moi je veux un RPO, je ne veux pas perdre au-delà d'une minute », ça veut dire que si vous avez beaucoup de données qui sont créées sur les serveurs, il va falloir les synchroniser de manière très rapide. Donc avoir une large bande passante et avoir également des serveurs qui sont assez… un process serveur qui est assez performant. Mm-hmm. Donc ça coûtera plus cher. Donc c'est là où il faut être un petit peu raisonnable et de quantifier un petit peu le nombre de changements qu'on peut avoir dans les interfaces, dans les serveurs physiques qui vont être répliqués. Si on a une base de données qui mouline beaucoup, hein. Et donc qui crée des gigas et des gigas à la donnée parce qu'il y a des cubes qui tournent dans tous les sens et différents clients qui font des opérations, et qu'on dit je veux un RPO de 1 minute avec une bande passante qui fait 5 mégas, physiquement c'est pas possible quoi. Il y a des limites en fait entre l'informatique et la magie.
Ouais. Exactement, l'avantage c'est que la console Azure pour cette partie là elle est relativement intéressante parce qu'elle va nous dire le RPO effectif, c'est-à-dire elle va dire par rapport à l'activité de tel serveur, voilà la dernière fois que j'ai réussi à avoir une information à jour.
Du coup, ça permet de revenir, je pense, a posteriori, si je comprends bien, sur le paramétrage, en regardant ce qui est réellement effectif et réellement jouable par rapport à la production, à la bande passante qu'on dispose, etc. Mm-hmm. Et de se remettre sur un objectif de RPO qui est un petit peu plus réaliste par rapport à ce qu'on dispose comme ressources.
Absolument. Alors, pour être sûr que ma mémoire ne me faisait pas défaut, j'ai switché, en fait, je suis passé là dans la console Azure et j'ai créé un nouveau groupe de réplication pendant que tu parlais, mm-hmm. juste pour vérifier les réglettes, parce que j'étais plus sûr des 70 minutes, ça m'embêtait un petit peu de vous donner une mauvaise info. Donc là, on voit que par défaut, on était sur effectivement 30 minutes, hop là, mais je peux baisser à 1 minute. Par rapport à la bande passante, sera moins qualifiée, comme tu le disais. Mm-hmm. Mais je peux aller beaucoup plus, pardon, pour les 70, on est à 240.
240, ce qui représente 4 heures quand même. Donc, de se dire, j'ai un RPO de 4 heures, ce qui peut être aussi également très raisonnable. C'est toujours mieux qu'un backup quotidien. Mm-hmm. Et donc, le nombre de points de rétention, là encore
Et ben voilà, là, par rapport au nombre de que j'ai choisi sur le RPO Threshold, et ben je vais garder un historique sur les X dernières heures. Donc, ça veut dire que lui va se créer des blocs différentiels pour pouvoir recomposer une VM sur les dernières X heures.
D'accord.
Et puis là, la consistance au niveau applicatif, pareil, sur des équivalences de mécanique VSS, les nombres de snapshots que je vais effectuer qui seront VSS coherentes.
Donc ça veut dire qu'on parle ici de serveurs physiques exécutant des environnements Windows Server, mm-hmm. et non pas des environnements Linux, parce que les environnements Linux n'ont pas la cohérence applicative, mais eux ont fait une cohérence du type fichier, c'est bien ça?
Exactement. Hop, donc on retourne.
Et c'est là qu'on comprend effectivement pourquoi il y a aussi deux serveurs de type... Target Server, ceux pour Windows, ceux pour Linux, qui effectivement n'ont pas les mêmes manières, les mêmes fonctionnalités en termes de rétention applicative.
Absolument. On retourne dans notre scénario classique. On a choisi le RPO. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer le compte de stockage. Ce compte de stockage qui va être utilisé pour garder la rétention des informations également, consolider et puis pour instancier les machines virtuelles.
Donc c'est dans ce compte de stockage, en fait dans cette enveloppe qui est une enveloppe de 20 000 I/O par seconde sur les comptes de stockage standard, où vont être en fait créés les disques durs virtuels, des machines virtuelles qui sont les réplicas en fait des machines physiques.
Tu fais bien de respécifier cette notion d'enveloppe de 20 000 I/O par seconde, parce que du coup, tu vois bien que ça va faire sens quand on va mettre en œuvre notre plan de reprise d'activité. Si on a des serveurs qui ont beaucoup d'opérations par seconde sur un environnement physique, tu vas devoir potentiellement utiliser plusieurs comptes de stockage pour composer une machine virtuelle.
C'est vrai que du coup, on comprend qu'il y aura plusieurs règles, plusieurs groupes de protection. Et chaque groupe, tu peux l'associer à un compte de stockage et du coup respecter ses enveloppes et les performances.
Tu as tout à fait compris la philosophie du truc. Donc là, je vais me créer simplement un seul groupe de stockage. C'est un petit environnement test, je fais ça de manière simple. Je prends le groupe de stockage, je lui dis stocke-moi ça sur West Europe, parce que j'ai tout fait dans West Europe jusqu'à présent. Ça, c'est relativement simple, ça se fait en une seule transaction, c'est cool, et je vais pouvoir le spécifier ensuite dans mon environnement. J'ai choisi un groupe de stockage ici qui est Zero Redundant, hein, pour avoir la possibilité de me baser sur un autre data center si jamais. Au diable l'avarice. Donc là, on a créé un groupe de protection, on a créé un compte de stockage pour y stocker les machines virtuelles, les machines virtuelles qu'on va créer. Maintenant, il ne reste plus qu'à définir quelle machine physique je vais aller protéger sur mon data center.
Effectivement, on a configuré tous les éléments de réplication, tout le paramétrage qui nous intéresse. Il ne nous reste plus qu'à dire maintenant, telle machine, tu vas utiliser ces paramètres-là et te répliquer.
Alors, c'est la dernière étape ici, l'étape 4, qui fait ajouter des machines dans un groupe de protection. On a ici deux options, ajouter des machines virtuelles, toujours si on fait du VMware, ici c'est grisé parce que j'en ai pas. Hop, ajouter des machines physiques. Alors là, j'ai un assistant qui s'ouvre et qui est intéressant. Il va me donner, en fait, les adresses IP de mes serveurs sources sur mon data center. Donc là, ce que je donne, c'est les adresses IP de mes serveurs que je vais chercher à protéger. Qu'est-ce qu'on fait quand on spécifie ça ? On va spécifier que simplement le process server aura pour job d'aller se connecter avec l'adresse IP sur ces serveurs, d'installer Mobility Services et de commencer à faire la protection.
Effectivement, ce process server qui est la machine virtuelle ou la machine physique que tu as configurée au préalable, comme tu lui as créé des différents comptes qui ont des privilèges d'être local admin sur ces différents serveurs, effectivement, elle a la possibilité d'aller effectivement installer du code à distance et du coup le démarrer. Alors je vois ici, on est sur de l'adresse IP V4, pas de V6 dans cette édition.
Pas encore d'IPv6, non, mais si vous qui nous suivez sur Microsoft Virtual Academy avez besoin d'adresse IPv6, n'hésitez pas à m'écrire, je serai très ravi de discuter avec vous de ce sujet.
Friendly name, on met ce qu'on veut, mais c'est plutôt recommandé de mettre le même nom que le nom, entre guillemets, NetBIOS de la machine.
C'est effectivement plutôt une bonne idée, ouais.
Voilà, il ne le récupère pas automatiquement, c'est à nous de le saisir.
C'est à toi de le saisir.
Et la sélection de l'operating system, je pense, a une importance, parce que du coup, ça permet de rediriger le tout sur un target server, je suppose.
Sur un master target qui soit approprié, ouais. Ensuite, dans l'étape d'après, alors là, on voit que j'ai fait appliquer tous les paramètres pour les mêmes machines physiques, mais si on a quelques divergences de configuration par rapport à une machine, on pourra décocher cette case, et dans ce cas-là, on pourra spécifier pour différentes machines, différents process servers, donc dans mon data center, différents master target dans Azure qui vont récupérer l'information. D'où le cas, si j'ai mis du Linux ou du Windows dans la même machine, là j'aurais forcément besoin de décocher la case appliquer tous les mêmes paramètres. Et ensuite le storage account, là de la même manière, si j'ai des machines physiques qui ont besoin d'un storage account avec plus de performance, je mettrai un storage account différent. L'étape d'après, il va me dire de la même manière, qu'est-ce que tu veux utiliser comme compte pour te connecter à ces machines. Alors là, si vous vous rappelez, où j'ai spécifié ça tout à l'heure, c'était dans...
Le configuration server.
Ça peut être un petit peu surprenant parce que c'est le configuration server. Lui, il n'est pas sur le data center. Donc c'est le configuration server qui va envoyer les infos au process server pour aller se connecter sur les serveurs qui sont sur mon data
C'est-à-dire que le
center.
process server ne maintient pas, en fait, n'a pas la base de ces informations. Elles sont envoyées quand on fait les opérations de configuration, en fait,
Par le config
depuis
server.
le config server. Okay.
Donc voilà à quoi ça ressemble. Et puis.
Et là, c'est là que les jobs se lancent. Donc là, tu en as trois qui se sont lancés.
Voilà, donc là j'ai envie de te dire, tu peux aller prendre pas mal de petits cafés
Ou des vacances.
ou des vacances selon la volumétrie, parce que bah, globalement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va commencer à identifier le process server, à lui envoyer les credentials pour qu'il aille se connecter. Le process server va installer les mobility services, donc là par procédure RPC distante, et ça c'est dans la configuration que j'ai fait également. J'ai spécifié que SMB et WMI étaient accessibles à distance sur les machines que je cherchais à protéger depuis le process server, paramétrage de GPO de
Bien
sécurité.
sûr.
Et une fois que j'ai ça qui est réalisé, que le truc va être installé, ils vont synchroniser avec l'EPS et ils vont commencer la réplication initiale des machines. Donc ça prend un petit peu de temps évidemment, et d'où l'intérêt que j'ai fait ça en slide.
Voilà. Donc effectivement, les machines virtuelles, on rappelle le process, hein, les machines physiques qu'on va protéger vont se répliquer sur un serveur local de la solution qui est le process serveur. Et lui, après, effectivement, enquille ça dans ses disques durs. Et après, lui-même fait la synchronisation à destination d'un ou plusieurs target serveurs qui, eux, sont dans Azure.
Ce ne sont pas des simples target serveurs, ce sont des master target serveurs.
Master, excuse-moi, des master target serveurs, autant pour moi, je ne voulais pas
Et diminuer.
les diminuer, bien
Ils sont
entendu.
très susceptibles en plus. Donc là, si on regarde dans l'état de protection des machines, on voit qu'effectivement, on a Hyperlan 4, 1 et 5 qui sont on-prem. Et là, on voit qu'il y en a un qui est un petit peu plus rapide que l'autre. Hyperlan 5 est un petit peu plus rapide. Il est déjà en synchronizing, alors que 4 et 1 sont en étape de enabling protection, donc configuration initiale, installation des mobility services, etc. Là, il a commencé à se répliquer, tac, tranquillement. Et puis, au bout d'un certain temps, tu vois que là, le temps continue de défiler. Et puis, à un moment donné, on aura effectivement le replication status et le status qui sera OK. Application status, ça veut dire que ben, j'ai bien des données qui sont OK, qui sont en train de continuer, et puis que la machine virtuelle est bien protégée par rapport aux paramètres que j'ai spécifiés. Et là, ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est assez intéressant, c'est que on voit que sur ces machines, le RPO, il est de 46 secondes, 1 minute ou 47 secondes.
Là, je me dis que tu as un gros tuyau derrière.
Il y a ici, tu as raison, j'ai un gros tuyau et en plus j'ai des serveurs qui ne font pas grand-chose. C'est Hyperlan, c'est la plateforme, c'est les vacances, tout le monde aura des
Ce qui
vacances.
correspond à exactement l'inverse de la réalité, où en général, on a plutôt des petits tuyaux et des serveurs qui travaillent, ou des tuyaux qui ne sont pas forcément super, super larges.
Ah ouais, mais j'ai plutôt de la chance
Mais
effectivement pour
effectivement, donc
enlever un bon
on
test.
tournait effectivement chez Microsoft, et donc on a l'Express Route également qui aide un petit peu pour envoyer tout ça, ce qui explique le RPO relativement faible ici qu'on a sur ce chiffre-là. Il y a peut-être des chances que vous ayez un RPO légèrement supérieur, là encore, ce n'est pas forcément très grave.
Yes. Alors, on a bien protégé ces machines virtuelles. L'étape d'après, c'est de constituer un plan de reprise d'activité. Ce plan de reprise d'activité, il va définir la configuration des machines telles qu'elles seront réellement présentes dans Azure, et puis il va définir une séquence complète de démarrage des machines. C'est l'objet du module 6.